Que le nom du Seigneur soit béni pour ces moments. C'est vrai que ce sont des privilèges de nous retrouver dans une église à partager la parole de Dieu. Alors, je vous ai dit que ce soir, nous introduirions sur la réunion de samedi, à savoir qu'il y a dans l'église des frères, des sœurs, des croyants, des jeunes, des moins jeunes, qui veulent être baptisés du Saint-Esprit. Et je crois que nous devons de répondre à ce besoin, à cette attente. Il y a des gens qui ont besoin du béaba, et souvent il y a des nouveaux qui viennent, ils ont besoin d'entendre le béaba de l'Évangile. C'est normal que nous l'apportions. Et de notre côté, il y a ceux qui ont des années ou des mois de conversion et qui veulent aller plus loin dans la vie de l'Esprit. Et il est certain que Dieu va répondre à cette attente. Si quelqu'un a soif, laissez-moi vous dire que Dieu va répondre à cette attente. Nous allons donc amorcer cette étude et comprendre certaines vérités. Car par exemple, il y a besoin d'être réveillé. Je donne un exemple. Quand Zacharie a été utilisé par Dieu vraiment pour faire l'œuvre du Seigneur. Et à un moment donné, il nous est dit que Dieu a été obligé de le réveiller. L'ange qui me parlait me réveilla. Tout Zacharie qu'il était, tout homme de Dieu qu'il était, il a eu besoin de passer par ce moment où l'ange l'a réveillé. Dieu l'a réveillé, il avait besoin d'entendre des choses importantes. D'ailleurs, il a entendu des choses importantes, entre autres, il a entendu les mains qui ont commencé cette maison, ces mêmes mains l'achèveront. Et nous avons besoin de réentendre que ce que Dieu a commencé, il va le poursuivre et l'achever. Ça vous rassure de savoir que Dieu veut poursuivre son œuvre et Dieu l'achèvera. Il l'achèvera avec des hommes et des femmes qui seront, c'est incontournable, qui seront soucieux de cette vie de l'Esprit. Il y a une vie de l'Esprit. Il y a une vie religieuse, il y a une vie de tradition, il y a un train-train, il y a la routine, mais il y a une vie de l'Esprit. Et croyez-moi, le Seigneur, il veut vous donner cette vie de l'Esprit. Et il le fait de manière équilibrée, intelligente. Alors on va voir, par exemple, une promesse. Vous aimez les promesses? Il y a des chrétiens, ils aiment que ça. Ils lisent des promesses. Ils ont des livres à promesses. Ils achètent à la CLC des boîtes à promesses. Et tous les matins, tac, ils tirent une promesse. Un petit peu avant, comme quand ils lisaient l'horoscope. Vous voyez, ça vous fera peut-être rire, mais c'est ridicule. On ne lit pas une promesse. On ne lit pas qu'une promesse. Il y a des gens qui font que ça. Leur culte personnel se résume à une promesse. Ils ont un livre avec 365 promesses. Et tous les jours, ils tirent une promesse. Oh, ce matin, Dieu m'a fait une promesse. Mais écoutez, soyons sérieux. Dans la Bible, il n'y a pas que des promesses. Il faut être intelligent. Alors, on va quand même aller une. Matthieu 28. Tout à l'heure, on a lu dans Matthieu 28, avant d'introduire l'heure de prière, parce qu'on a des combats. Est-ce qu'on n'a pas des combats dans la vie? On a tous des combats. On a des moments difficiles et des moments où on n'a pas envie de prier. On a pris 4 ou 5 textes que je vous ai laissés tout à l'heure. Si vous voulez, je vous les redonnerai après, pour ceux qui sont intéressés. Par exemple, on avait pris le verset 18 de Matthieu 28, on l'avait pris, où Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Est-ce que vous le croyez ça? Que tout pouvoir a été remis à Jésus? Que depuis qu'il est remonté au ciel, il est assis au-dessus de tout, de toutes les puissances, de toutes les dominations? Vous le croyez ça? C'est écrit. Soyons accaparés par la promesse maintenant. Matthieu 28, verset 20. Là, c'est la dernière parole de l'évangile de Matthieu. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est une promesse. Oui ou non? Est-ce que c'est une promesse? Est-ce que vous connaissez cette promesse? Est-ce que vous l'avez déjà lue? Est-ce qu'elle vous a déjà touché? Est-ce que vous la croyez? Ou est-ce que vous en doutez? C'est de toute façon que vous doutiez pas, que ce soit pour le dimanche ou le mardi, c'est pour tous les jours de la vie, pour tout le temps, le Seigneur a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il y en a quelqu'un qui a dit Amen. Merci, monsieur de Dieu. Ça m'encourage. Mais vous pouvez dire Amen. Est-ce que vous vous rendez compte de la portée de cette promesse? Est-ce que vous réalisez ce que Jésus a dit? Je suis avec vous tous les jours. Tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est une promesse, elle est valable tous les jours. Que vous soyez d'accord ou pas, de toute façon, ça ne change rien. Il n'y a pas que des promesses. Regardez dans Nombres chapitre 14. Il y a aussi, dans la Bible, des avertissements. Si vous n'avez pas dit Amen pour la promesse, je ne vous demande pas de dire Amen pour le verset 34 de Nombres 14. Nombres chapitre 14, verset 34. Ils n'ont pas obéi, ils n'ont pas été sérieux. Dieu leur avait dit, vous ferez ça et ceci, et ils n'ont pas fait. Mais vous savez, Je crois que nous qui voulons le baptême du Saint-Esprit, il ne faut pas oublier que le Saint-Esprit, il est donné à qui ? À ceux qui obéissent. Alors ne nous amusons pas à dire n'importe quoi au Seigneur. Pourtant, Dieu dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et pourtant, nous lisons dans Nombre chapitre 14, verset 34, de même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Donc, d'un côté, nous avons une promesse qui est indiscutable, incontournable. Le Seigneur est avec nous tous les jours, il l'avait dit aussi à Moïse. Et de notre côté, nous avons un avertissement. Dieu est obligé de dire à son peuple qui n'a pas obéi, vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Alors, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Pardon. Le Seigneur, il est là. Mais ce n'est pas parce qu'il est là que ça l'oblige à agir. On peut prêcher, je peux prêcher jusqu'à demain matin 6 heures, si vous voulez. Je peux prêcher jusqu'à dimanche matin, sans interruption, on peut se relayer sur la présence de Dieu continuellement. Ça ne va pas obliger Dieu à se manifester. La présence de Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. Vous avez une promesse incontournable, un avertissement incontournable. Vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Et la question qu'on devrait se poser est celle-ci. Nous voulons la présence de Dieu dans l'Église. Le baptême du Saint-Esprit, c'est un baptême de la présence de Dieu. Ce n'est rien d'autre. Les gens, ils se font tout un tas de trucs, de films, par rapport au baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est un baptême d'amour dans la présence de Dieu. Et là où le Seigneur est, il peut tout faire. Alors, on va lire une promesse, un avertissement, un enseignement, dans Jean, au chapitre 14. Jean, dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, il y a un enseignement. C'est ça l'équilibre. Vous savez, je vous ai dit dimanche que ce qui était important, c'est que nous soyons des chrétiens équilibrés. Et il faut l'être. Jean, chapitre 16, un enseignement par rapport au Saint-Esprit. Qu'est-ce que fait le Saint-Esprit ? Qu'est-ce que fait le Saint-Esprit quand Dieu est présent au milieu de nous ? Quand Dieu est présent au milieu de nous, comment le Saint-Esprit agit ? Quelle est la première chose qu'il fait dans une église, le Saint-Esprit ? Eh bien, on va le lire. Jean chapitre 16, verset 7. « Cependant, je vous lis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Amen. Voilà ce qui se passe dans une église où l'Esprit de Dieu agit. La première chose qui se passe, c'est quoi ? Des convictions de péché. Vous êtes d'accord ou non ? Vous avez intérêt à l'être. Enfin, vous avez intérêt si vous l'êtes en accord avec Dieu. Oui, il y a des promesses. Il y a des avertissements. Il y a un enseignement où nous sommes quand même sérieux. Et nous voyons bien que si Dieu est présent, si le Saint-Esprit est présent, la première chose qui se passera, c'est qu'il y aura des convictions de péché. La première chose qui se passera, on peut le lire par exemple dans 1 Corinthiens, en ce qui concerne les dons spirituels. Je ne sais pas si vous aimez lire les textes sur les dons spirituels. C'est vrai qu'il y a tellement eu d'abus, tellement eu de désordres, tellement eu de catastrophes dans les églises de Pentecôte par rapport aux dons spirituels qu'on n'ose plus enseigner certaines choses. Et je comprends, moi, ceux qui ont pris cette décision, mais c'est un tort. L'œuvre de Dieu se fait par la puissance du Saint-Esprit. L'œuvre de Dieu ne peut se faire que par l'action du Saint-Esprit. L'édification de l'Église, elle peut se faire comment ? Le salut des perdus, ça peut se faire comment ? Avec des michouis ? Et il y a des églises, on fait des michouis. On fait michouis, tu vois. Là. Est-ce qu'on peut faire michouis dimanche après le culte? On fait michouis. Est-ce qu'il y a quelqu'un là qui peut faire un michouis? S'il y a des gens qui savent faire des grillades, des... Non, mais il y a des gens, ils font ça. On a fait un michouis. Il y avait 200 inconvertis. Alors, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre, en plus. Moi, j'aime la viande. Mais mes frères et sœurs, une âme sera sauvée que par la présence du Saint-Esprit. Une église n'est édifiée, un chrétien n'est édifié que par l'action du Saint-Esprit. Et tout ce qui concerne la vie de l'église, n'est possible que par l'assistance du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'on doit rechercher la vie de l'Esprit. Vous savez, l'autre jour, quand j'ai fini ma mission, j'étais à Saint-Maximin, bon, ça a été quand même assez intense, et quand je suis rentré, j'avais une heure dix de route pour aller chez ma fille pour la voir, parce que c'était sur le chemin. Et quand j'ai pris la voiture, comme ça faisait 4 ou 5 jours que j'avais pas écouté la radio, pas regardé la télévision, les infos, etc., je me suis dit, tiens, en montant à la voiture, je me suis dit, tu vas écouter les infos. Et puis, avant d'allumer, il y a ce verset qui s'est imposé à mon esprit, d'ailleurs on peut le lire dans 1 Corinthiens 14, mais vraiment ce verset s'est imposé à mon esprit. 1 Corinthiens 14, verset 4. Je vous le lis parce que vraiment, je crois qu'il faut que nous demandions à Dieu d'être sensibles au Saint-Esprit. Est-ce que ça fait partie de nos prières? Qu'est-ce qu'il est dit? 1 Corinthiens 14, verset 4. « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. » Et j'ai dit non, tu n'écouteras pas la radio. Même pas 5 minutes. Et pendant l'heure 10 que j'ai mis pour aller chez ma fille, dans la voiture, j'ai prié et j'ai prié en langue. Je vous assure, devant Dieu, quand je suis arrivé chez ma fille, j'étais ivre de joie, rempli de joie. Est-ce que c'est biblique ça? Ou est-ce qu'on est farfelu? Non. Est-ce que c'est écrit dans la Bible qu'on peut être rempli de joie? Et il me semble que nous les chrétiens, nous devrions chercher cette vie de l'esprit. Il ne faut pas s'étonner, vous savez, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais je n'ai pas regretté d'avoir passé 7h10 en prière, dans la voiture. Regardez un peu plus loin. Lorsque l'Esprit de Dieu agit, à quoi on reconnaît une église où l'Esprit de Dieu agit? Eh bien, on va le lire. Parce que c'est ça qu'on veut. On va le lire, c'est facile à comprendre. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 23 à verset 25. « Si donc, dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue et qu'il empre de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous ? » Donc, ça nous montre que lorsque nous sommes dans un culte ou dans une réunion d'évangélisation, s'il y a des inconvertis, il faut faire attention à ne pas dire n'importe quoi. D'accord ? Mais, verset 24, regardez bien. Si tous prophétisent, donc qu'est-ce que ça veut dire déjà ? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ça ? Allez, vous allez m'aider quand même. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si tous prophétisent ? Pas tous ensemble par contre, un après l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire si tous prophétisent? Oui, ça veut dire, que tous sont remplis du Saint-Esprit. Oui, c'est ça que ça veut dire. Que tous les chrétiens d'une église peuvent être remplis du Saint-Esprit. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est un scoop? Est-ce que c'est un exploit? Ou est-ce que c'est normal? Ben, c'est la vie normale. Deuxièmement, qu'est-ce que ça veut dire? Pas trop vite. Ça veut dire que tous les chrétiens, à partir du moment où ils ont accepté Jésus-Christ, parce que personne ne peut dire Jésus-Christ et Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Et si vous croyez que Jésus est Seigneur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que Jésus est un historien, est un homme d'histoire, que Jésus est un philosophe, quand vous lisez même dans des églises, vous entendez de ces trucs, il y a des gens qui vous disent que même Jésus est le premier communiste, vous voyez ? Jésus, ce n'est pas un communiste, ni un philosophe, ni un homme bien, ni un grand prophète. Jésus, c'est le Seigneur, avec un S majuscule. Est-ce que vous le croyez? Si vous ne le croyez pas, c'est que vous n'êtes pas converti. Je le dis peut-être de manière abrupte, mais c'est clair. Quelqu'un ne peut dire que Jésus-Christ est le Seigneur que par le Saint-Esprit. Regardez, on lit la suite. Mais si tous prophétisent, qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur. On est dans la vie de l'Église, là. Donc, les chrétiens sont remplis du Saint-Esprit. Un inconverti rentre, un incroyant, un non-croyant, un simple auditeur. Qu'est-ce qui se passe? Il est convaincu par tous. Il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu. Et qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Comment vous avez écrit dans votre Bible? Il publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Alléluia. C'est ça que l'on veut. Parce que c'est bien de dire, de chanter que le Seigneur est avec nous. On peut chanter des cantiques. Jésus est au milieu de nous. Il est beau ce cantique. Moi, j'aime le chanter. Je chante souvent. Hein, vous aimez ce cantique? Jésus est au milieu de nous. Jésus, mais c'est quand même encore mieux quand c'est des incroyants qui rentrent et qui disent Jésus ou Dieu est au milieu de vous. La vie de l'esprit, c'est ça. C'est même pas les croyants qui le confessent. Ce sont les incroyants qui, à cause de la présence de Dieu, publient, c'est-à-dire qu'ils le confessent publiquement, c'est-à-dire que ça... Des fois, on est là, les gens, ils n'osent pas rendre témoignage. Mais là, vous rendez compte, même les inconvertis publient que Dieu est au milieu de nous. Voilà à quoi on reconnaît une église qui est baptisée du Saint-Esprit. Vous savez, des fois, on parle, les gens parlent en langue, mais c'est autre chose, c'est plus que ça, le baptême du Saint-Esprit. C'est une vie d'obéissance, c'est une vie de grâce, c'est une vie de victoire. On va voir samedi matin. À quoi est rattaché le baptême du Saint-Esprit? Qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un est rempli du Saint-Esprit? On va le voir avec une dizaine d'exemples. Vous voyez, comme le premier, c'est « Personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. » Ce n'est pas 1 Corinthiens 12 que c'est écrit? Si, 1 Corinthiens 12, verset 3. Moi, j'ai appris les versets par cœur. Le pasteur qui m'a formé m'a dit « Tu ne partiras pas dans la vie tant que tu n'auras pas appris 1000 versets par cœur. » En fait, je n'avais pas trop envie de partir, mais après, j'ai quand même appris les versets. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3. On verra samedi matin qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un est rempli du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur de l'homme? La première chose, on la voit ce soir, elle est là. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit, alors faites bien attention, dans la Bible, il y avait des esprits avec E minuscule, esprit avec E majuscule. Un E majuscule, c'est toujours bien sûr le Saint-Esprit. S'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Donc, ce que je voulais que nous comprenions ce soir, c'est que notre préoccupation, nous, c'est souvent que Dieu, de convaincre les gens. C'est pas vrai que nous, on aimerait que les gens, on aimerait convaincre les gens. C'est pas vrai? Mais c'est pas notre travail, ça. Nous, on est accaparés par ça. On aimerait convaincre les gens. Mais vous avez lu avec moi que c'est le travail du Saint-Esprit. Vous le comprenez comme moi, ça? C'est le travail du Saint-Esprit lorsqu'une église est l'église du Seigneur, que les croyants sont soucieux justement d'avoir cette vie de l'Esprit qui commence par le début, à savoir que l'on croit vraiment que Jésus est le Seigneur. Vous savez, il y a des assemblées de Dieu où on commence à prêcher que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. C'est grave, ça. Parce que c'est la mentalité de l'antéchrist qui confesse que Jésus n'est pas le Seigneur. Mais bon, c'est pour vous dire que l'apostasie, elle est rentrée dans le royaume de Dieu. Mais une chose est certaine, c'est pour ça que j'ai commencé volontairement avec cette parole de Dieu qui s'adresse à Zacharie, qui le réveille et qui lui écoute, mes mains ont commencé cette œuvre et mes mains l'achèveront. Laissez-moi vous dire que Dieu, il va poursuivre son œuvre et il la poursuivra, pas forcément avec les assemblées de Dieu. Il poursuivra son œuvre avec des chrétiens dans des églises qui seront baptisés du Saint-Esprit. Et nous devons bien comprendre certaines choses. Oui, il y a des promesses. Oui, il y a des avertissements. Oui, il y a de l'enseignement. Et on doit bien sûr bénir Dieu pour les promesses, mais on doit s'interroger par rapport aux avertissements. Regardez, je vais revenir à l'histoire de la conviction de péché pour que nous soyons rassurés, que nous comprenons bien que Dieu n'a aucun problème avec le pécheur. Il dit, quand il sera venu, il convaincra le monde. C'est-à-dire, ça veut dire que Dieu n'a aucun problème pour qu'un pécheur soit convaincu de péché. Est-ce que vous savez que Dieu peut prendre n'importe quel pécheur, n'importe lequel, le plus abruti, le plus endurci, le plus stupide, le plus loin de Dieu? Si la présence de Dieu, elle est là, si ce pécheur y vient dimanche matin, le Saint-Esprit le convaincra de péché. Vous le croyez, ça? D'ailleurs, il y en a plusieurs qui faisaient partie de cette catégorie. Et on est là ce soir. Oui ou non? Il faut que nous comprenions une chose. Là, on va le voir, je vais terminer avec ça pour vous encourager. Mais une promesse ne garantit pas que Dieu va agir. Regardez un autre exemple. Dans Josué, vous connaissez le livre de Josué? C'est un livre que vous devriez lire et méditer. Vous en avez pour un an, je le sais, mais ça fait rien, ça vaut la peine. Dans Josué, au chapitre 1er, Josué arrive sur le devant de la scène, Moïse est mort, c'est lui que Dieu va choisir pour continuer l'œuvre. Et Dieu lui fait une promesse. Il lui fait une promesse, Josué, chapitre 1er, verset 5. Et les promesses, vous pouvez toutes les lire, elles sont toutes pour vous. Vous le croyez ça? Toutes les promesses, elles sont pour nous, ses enfants. Que le nom du Seigneur soit béni. Dieu fait cette promesse, il l'a fait. Alors quelqu'un un jour m'a dit, oui, mais il l'a fait à Josué. Mais vous voyez, comme les gens ne lisent pas la Bible, est-ce que c'est écrit dans le Nouveau Testament que Dieu sera avec nous aussi? Bien sûr que c'est écrit. Josué, chapitre 1er, verset 5, c'est écrit où, Michael? Non, Hébreu. Josué, chapitre 1er, verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, je serai avec toi. Voilà. Et on a besoin de savoir que Dieu sera avec nous. Dieu commence en lui disant, je serai avec toi. Alléluia. Mais au chapitre 7, le temps a passé, il y a eu des choses qui ont été faites, et donc d'autres qui ont été mal faites. Et au chapitre 7, vous le lirez, je ne vais pas tout lire bien sûr, qu'est-ce que Dieu lui dit? Au verset 12. Josué chapitre 7, verset 12, donc le même Seigneur qui a parlé à Josué, « Je serai avec toi », est obligé de lui dire, « Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leur ennemi, ils tourneront le dos à leur ennemi, car ils sont sous l'interdit, et je ne serai plus avec vous. » Voyez, quelques jours avant, Dieu lui dit, « Je serai avec toi tant que tu vivras. » Est-ce que c'était vrai ça? Mais bien sûr, Dieu a dit, « Je serai avec toi », c'était clair, mais là, il y a un péché qui a été dans le peuple, et Dieu lui dit, eh bien, je ne serai plus avec vous tant qu'il y aura l'interdit. Et c'est vrai que chacun d'entre nous, si nous nous sommes engagés, si vous n'êtes pas baptisé, si vous n'êtes pas rentré dans le royaume de Dieu, car le baptême, c'est quand même un engagement à rentrer dans le royaume de Dieu. Si vous n'êtes pas baptisé, c'est un autre problème. Si vous êtes baptisé, vous avez décidé de faire partie du peuple de Dieu, oui ou non? Donc vous devez de dire, mais je vais travailler de telle sorte que rien n'attriste le Saint-Esprit dans ma vie. Vous êtes d'accord avec moi? Et s'il y a quelque chose, il faut que je le règle. Si j'ai menti à Monsieur de Dieu, qu'est-ce que je dois faire? J'ai menti à Monsieur de Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Lui demander pardon. Il dit, voilà, monsieur de Dieu, écoutez, ça m'est arrivé d'autre, pas de lui mentir, mais d'aller lui demander pardon. Plusieurs fois, c'est oui ou non? Pour des choses, parce qu'on ne s'est pas compris, comme ça, mais c'est pas gênant. Mais on devrait avoir ce réflexe, pardon, je vous ai dit ceci, c'est pas bien. On le sait qu'on ne doit pas attrister le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est comparé, vous avez vu, quand il descend sur Jésus, c'est quoi que Dieu a permis qu'il descende? Une colombe. Une colombe, vous le savez, vous avez eu les tourterelles, vous faites un claquement de doigts, elle s'envole. Ça veut dire qu'il ne faut pas grand-chose pour l'effaroucher, pour lui faire peur. Si le Saint-Esprit est comparé à une colombe, c'est qu'on peut vite l'effaroucher. On peut vite attrister le Saint-Esprit. À tel point qu'il y a des gens qui ne se rendent même plus compte que l'Esprit s'est retiré d'eux. Vous savez, l'autre jour, j'ai conseillé à un jeune d'aller dans une église parce que le dimanche, ça m'a fait pitié de vous dire ça. J'ai conseillé à ce jeune qui n'est pas chrétien d'aller jouer parce qu'il joue au foot, d'aller jouer au foot avec des frères d'une église qui jouent tous au foot après le dimanche, après le culte, après l'évangélisation. Il est revenu me voir le soir, il me dit, vous savez, j'ai été jouer avec les jeunes chrétiens. Tous étaient grossiers. Tous. Mais il me dit, monsieur Hugo, quand je vous dis grossier, c'est pas les saintes lettres. C'est vraiment de la grossièreté et des injures entre eux. Et vous croyez que le Saint-Esprit va se mouvoir dans une église où les gens sont grossiers? Est-ce que vous croyez que ce que l'on a chanté par rapport à la pureté? Je ne sais pas si vous êtes grossier. Si vous êtes grossier et que vous dites que vous êtes rempli du Saint-Esprit, venez me voir, je vais vous expliquer. Mais laissez-moi vous dire que quand on est rempli du Saint-Esprit, est-ce qu'on peut être grossier quand on est rempli du Saint-Esprit? Mais moi, je pense qu'il faut être méga pratique. Si vous êtes vulgaire ou grossier, c'est que vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, c'est sûr. Je pense que quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il dirait un mot vulgaire, est-ce qu'il se sentirait repris de suite? Mais moi, il me semble. Et si vous pensez que vous êtes rempli du Saint-Esprit et que vous vivez dans la grossièreté, vous vivez dans l'illusion. Comme quand Jésus dit aux chrétiens de l'Odyssée, tu crois que tu es riche et tu ne sais pas que tu es pauvre. Ça s'appelle l'illusion. Tu crois que et tu ne sais pas que. Voilà, tu crois que tu y vois et tu ne sais pas que tu es un aveugle. Parce que des fois, moi je crois qu'on est, moi le premier, je peux être trop compliqué. Il faut que les choses soient claires. Dieu n'a aucun problème avec le pécheur. Il faut bien comprendre ça. Le problème de Dieu, ce n'est pas les pécheurs. Le problème de Dieu, c'est les chrétiens. Les pécheurs, ce sont des pécheurs. Quand le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit les convainc. Regardez l'expérience que Dieu a voulu faire à Ézéchiel et en même temps nous l'enseigner. Ézéchiel arrive à un moment donné de son ministère, il a beaucoup avancé, parce que vous, quand vous lisez un livre, peut-être que vous n'y faites pas attention, mais il y a une gradation. Et certaines expériences ont pu être faites par certains hommes de Dieu, parce qu'ils avaient beaucoup progressé avec Dieu. Ézéchiel a beaucoup avancé, et au chapitre 37, Dieu lui fait faire une expérience. Il l'amène dans une vallée, cette vallée c'est un cimetière ouvert. Vous connaissez Ézéchiel 37? Bon, notez-le, si vous ne le connaissez pas, vous lirez ce chapitre. Je vous le résume, parce que l'heure tourne. Dieu amène Ézéchiel dans cette vallée, c'est une vallée d'ossements desséchés. C'est un cimetière ouvert. Et Dieu parle à Ézéchiel. Il lui dit, tu as vu cette vallée? Mais oui, il répond oui. Et c'est mort. Est-ce qu'ils peuvent revivre? Alors, lui, pourtant, c'est un homme de Dieu, croyez-moi. Et il a déjà beaucoup reçu. Alors, comme il ne sait pas, il faut faire ce qu'il a fait. Mais je ne sais pas. Tu le sais. Et Dieu... Vous lirez ce chapitre, il y a toute une progression, et Dieu lui dit, prophétise sur ces eaux. Et Ézéchiel va répéter ce que Dieu dit. Parce que prophétiser, c'est répéter la parole de Dieu. Oui ou non? Je le résume, mais c'est ça. Et au fur et à mesure qu'il obéit, qu'est-ce qui se passe? Les eaux, parce qu'il est mort là, ils étaient morts. Très mort. Vous êtes d'accord? Ils étaient beaucoup morts. Et vous voyez bien que Dieu n'a aucun problème avec les morts. Il dit, mais prophétise. Et les eaux se rapprochent. Mais c'est une expérience à ne pas dormir après. Et puis des nerfs viennent. Enfin, c'est une expérience extraordinaire. Il l'a vu. Et... Ces ossements desséchés vont devenir des hommes, et ces hommes vont être après remplis du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a plusieurs images, mais l'image qui nous concerne à nous dans le cadre de l'étude, c'est que Dieu n'a aucun problème avec les gens qui sont morts. Peut-être que vous travaillez avec un type, vous dites, mais ce type, il ne se convertira jamais, c'est un ahuri. Il est malade, ce type, il est contre Dieu. Moi, je vous dis que le Saint-Esprit n'a aucun problème avec un pécheur. Que nous devrions arrêter d'essayer de les convaincre. Notre problème, ce n'est pas essayer de convaincre les pécheurs. Notre problème, ça serait de dire, mais Seigneur, est-ce que je suis dans cette condition spirituelle que tu agrées? Est-ce que je peux aller plus loin que juste dire Jésus est le Seigneur? C'est déjà beau de pouvoir dire Jésus est le Seigneur. C'est une grâce. Ce n'est pas tout le monde qui le croit. Beaucoup de gens pensent que Jésus a existé, beaucoup de catholiques, croyants, de protestants, peut-être même des évangéliques, croient que Jésus était bon, c'était merveilleux, il a guéri des gens, tout ça. Il n'a pas guéri des gens pour guérir des gens. Il est Dieu. Vous le croyez qu'il est Dieu? Je vous le dis, je vous le répète, si vous ne croyez pas que Jésus est Dieu, vous n'êtes pas converti. Il faut bien vous le dire. Si vous croyez que Jésus est Dieu, c'est que vous n'avez pu le dire que parce que le Saint-Esprit est venu habiter dans votre esprit. Mais notre problème à nous, je vous le dis, ce n'est pas la condition des pécheurs qui fait un empirant, on l'a vu avec Charlie Hebdo et avec tout ce qui se passe, comment les gens sont de plus en plus blasphémateurs. Mais le problème de Dieu, ce sont les chrétiens. C'est nous qui devrions avoir le souci de dire « mais moi je veux m'appliquer ». Tout faire pour que l'on soit tous remplis du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, c'est ça que Dieu veut. Et pas juste parler en langue, mais être amené à une vie d'obéissance, de sainteté. Moi, quand on me dit que ces chrétiens-là, ils sont grossiers, qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, moi, je ne le crois pas. Moi, je ne le crois pas. Je ne crois pas. Je ne le crois pas, ce n'est pas possible. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il faut qu'il choisisse de toute façon. Ou c'est l'un ou c'est l'autre. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Admettons, ça peut arriver. Imaginons quelqu'un à qui ça arrive de dire un gros mot. Est-ce que ça pourrait arriver? Est-ce que ça peut arriver? Je ne sais pas. Je pense que ça peut arriver. Qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous disiez un gros mot? Mais je suis, moi, je ne sais pas. Moi, j'aurais une honte, pas possible. Moi, je demanderais pardon, je suis sûr. Je demanderais pardon parce que moi, parce que quelqu'un qui a la vie de l'esprit, il ne peut pas faire autrement. Et mes frères et sœurs, commençons par le début, dans des choses très pratiques. Parce que Dieu a fait une promesse, elle est catégorique. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et celui qui croit en moi, dit Jésus, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il disait cela de ceux qui devaient recevoir l'Esprit. Et mes frères et sœurs, il doit y avoir une soif, une vraie soif, pas dans le cadre de nos réunions, mais partout, tout à l'heure. Moi, je vous dis, quand je suis rentré chez ma fille, que j'ai dit « Non, tu ne vas pas écouter la radio pour écouter des bêtises, ça ne sert à rien. Même si c'est des infos, c'est en boucle, c'est ce truc, ça ne sert à rien. » Je me suis dit, je vous assure, j'ai été rempli de joie. Je crois qu'on a un Dieu qui remplit de joie. Même dans un monde de tristesse, nous avons un Dieu qui donne la joie. Même dans un monde de ténèbres, il y a un Dieu qui donne la lumière. Vous le croyez? Et le diable, il fera tout pour nous écraser, pour nous empêcher. Et il va nous donner toutes choses d'artifice dans le monde pour essayer de nous faire croire que ça va nous faire du bien. On va se distraire, on va se divertir. Mais vous pourriez me dire ce qu'il y a de mieux que la présence, vraiment la présence de Dieu? Est-ce qu'il y a, d'après vous, une joie plus grande que la joie de Dieu? Est-ce qu'on pourrait, pendant une heure, là, dire, voilà, il y a la joie du monde, quand même, il y a des joies dans le monde. Est-ce qu'il n'y a pas des petits plaisirs dans le monde? Est-ce qu'il y a des plaisirs dans le monde? Soyons honnêtes. Oui, mais vous n'allez pas comparer un plaisir du monde et le pardon des péchés. Oui ou non? Est-ce qu'il y a des choses que Dieu nous donne? La Bible dit que Dieu nous donne toutes choses afin que nous en jouissions. Oui ou non? Est-ce que c'est écrit? Ou d'accord. C'est écrit que Dieu nous donne toutes choses afin que nous en jouissions. Peut-être que vous avez pu acheter une belle robe, je n'en sais rien. Est-ce que c'est une grâce de pouvoir acheter une belle robe? Est-ce que c'est une grâce? Je ne sais pas moi. Quoi, tout ce qu'on achète, est-ce que c'est une bénédiction? Mais franchement, il n'y a pas photo, comme on dit, entre tout ce que l'on peut avoir et le pardon des péchés. Vous êtes d'accord? Et si quelqu'un va chercher la joie dans le monde, c'est qu'il ne l'a plus, ou alors il a oublié ce qu'était la joie de Dieu. Oui ou non? Ben, c'est évident. D'ailleurs, c'est biblique. Quand dans Jérémie, il est dit que vous avez abandonné la source d'eau vive pour vous creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau, il faut vraiment avoir un gros problème. Vous me pourriez me dire, mais ils n'étaient pas bien les chrétiens de ce temps de Jérémie. Mais combien de chrétiens vont chercher la joie sur Internet, sur Facebook, je ne sais rien, à la télé, alors qu'il y a vraiment une joie dans la présence de Dieu? Mais c'est exactement la même chose. Alors, l'aveuglement est tel que les gens, comme il y a longtemps qu'ils n'ont pas reçu cette joie ou qu'ils ne l'ont jamais reçue peut-être, c'est sûr que moi je comprends pourquoi ils se creusent des citernes qui ne retiennent pas l'eau. Je le comprends, il ne faut pas non plus être bête. Il y a des gens qui se creusent des citernes dans les choses du monde parce qu'ils n'ont jamais expérimenté la joie de Dieu. Mais revenons-en au début. Il y a des promesses, elles sont imparables pour tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il y a des avertissements, c'est pareil, ils sont valables tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il y a des enseignements qui sont toujours valables, et il y a un Dieu qui veut manifester sa présence et qui nous dit, voilà, moi le pécheur, je peux le ressusciter. N'importe lequel. Même un cimetière. Mais qui va se préoccuper de travailler la présence de Dieu en lui? Car dans une assemblée, on peut en arriver, moi j'y crois, à ce que tous prophétisent. Alléluia. C'était, ça manquait de... Je recommence. Dans une assemblée de Dieu, tous les croyants peuvent prophétiser. Oui ou non? Mais ça dépend de quoi? Eh bien de la soif, si quelqu'un a soif. Et c'est pour ça que vous devez, nous devons, je me mets avec vous, vous inquiétez pas. Mais nous devons nous interroger. Moi, quand j'entends qu'un chrétien qui fait chanter est grossier, je me dis, mais il y a un aveuglement pas possible. Il dit, oh, mais c'est pas grave, tout le monde fait, dans l'église, il y en a plusieurs. Mais pas ici, hein, mec. Moi, je peux vous dire que si j'apprenais que vous soyez grossier, je peux vous dire que vous aurez affaire à moi. Pas affaire à moi dans le sens où je pense quand même qu'il faut qu'on soit sérieux. Et si vous l'êtes, mettez-vous à genoux en rentrant. Et dites, Seigneur, c'est terminé. De ma bouche ne sortira que des paroles saintes. Parce que, je le répète, le Saint-Esprit, il est donné à ceux qui obéissent. Acte 5. On le lit pour terminer. Mais c'est important, mes frères et sœurs. C'est important. Parce que déjà, ils veulent être baptisés du Saint-Esprit, ils n'obéissent pas. Lisez le livre des Actes, parce qu'on en reparlera samedi, pour ceux qui veulent aller plus loin. Il y a un modèle. Moïse, quand il a construit le temple, le tabernacle, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait d'après le modèle. Nous voulons construire l'Église, il faut faire d'après le modèle. Le modèle, c'est le livre des Actes, c'est la vie de l'Esprit. Regardez, Actes chapitre 4, verset 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Gloire à Dieu. C'est pas compliqué. Seigneur, montre-moi ce que je dois faire. Montre-moi. Est-ce que vous croyez sincèrement, si vous dites, mais Seigneur, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Vous croyez que Dieu va vous laisser un plan? Ou est-ce que vous n'allez pas avoir la pensée de Dieu? Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Est-ce que c'est une question que vous vous posez parfois? Moi, ça m'a aidé, mais je vous assure, vous ne pouvez pas vous imaginer comment cette question m'a aidé à faire des progrès. Je ne vais pas mentir non plus. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Tiens, j'ai 2 heures, là, c'est samedi après-midi. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Eh bien, je vais visiter. Je dis ça parce que je me rappelle, avant de rentrer dans le ministère, eh bien, j'allais visiter une mémé. Avec Isabelle, on allait visiter une grand-mère qui ne pouvait pas venir à l'église. On aurait pu aller faire... On était fatigués parce que moi aussi, je travaillais. Ma femme aussi. Mais je crois que ça nous a permis de comprendre certaines choses. Le Saint-Esprit, il est donné à ceux qui obéissent. Mes frères et sœurs, méditez ces choses. Rappelez-vous que le Saint-Esprit n'a aucun problème avec le pécheur. Aucun. Vous le croyez avec ce qu'on a lu? Le problème de Dieu, ce n'est pas le pécheur. Nous, on croit que c'est les pécheurs qui sont endurcis. Non. Le problème de Dieu, c'est les chrétiens. Alors, appliquons-nous à obéir. Et demandez-lui. Vous vous rappelez de Jésus quand il a parlé avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs? Le soir, qu'est-ce qu'il a fait? Il paraissait vouloir. Il ne s'impose pas le Seigneur. Il n'oblige pas. Moi, j'ai dit, si vous voulez vous marier avec un inconverti, mais mariez-vous. On n'est pas dans une secte. On est dans l'église du Seigneur. Si vous voulez faire une bêtise, faites-la. Mais vous êtes, les gens sont libres. Mais mes frères et sœurs, je crois que le Saint-Esprit, il agit. Moi j'aimerais vivre ça sur la terre. Que dans une église, vous rendez compte, tous prophétisent. Vous aimeriez pas? Bon, on va terminer. Vous êtes d'accord? Vous le croyez que le Saint-Esprit n'a aucun problème avec le pécheur? Est-ce que vous le croyez ça déjà? Est-ce que vous croyez qu'il y a des promesses et des avertissements? Et qu'il y a des enseignements? Alors mes frères et sœurs, le pécheur, Dieu s'en occupera. Occupons-nous, nous, de notre communion avec Dieu, de la présence de Dieu dans l'Église. Alléluia. Je vais terminer en priant. On le fait sérieusement. Dieu, il vous connaît. Vous savez, quand ce jeune me disait que dans l'Église, en question, presque tous les frères étaient grossiers, moi, ça m'a brisé le cœur. Je ne sais pas si vous êtes grossier, si vous êtes menteur, si vous êtes baptisé, que vous viviez dans le péché, j'en sais rien. Mais Dieu, il sait la prière que vous devez faire monter vers lui. Et quand moi je lis ces textes dans les Corinthiens, que tous les chrétiens peuvent prophétiser, vous vous rendez compte? Je ne suis pas étonné qu'un païen, un publicain, Dieu l'enverra. Et c'est lui qui dira, Dieu est ici. Est-ce qu'il y en a qui veulent vivre ça dans l'église? Que dimanche, dans 15 jours, peut-être mardi prochain, un pécheur soit là au milieu de nous. Et qu'en sortant, ils disent, mais Dieu est avec vous. Vous n'avez pas envie de voir ça? C'est ce que Dieu, en tous les cas, Dieu a envie, lui. Et ça passe par nous, c'est notre responsabilité. Je suis avec vous, mais il peut nous dire, je ne suis plus avec vous. Tant que il y aura ça dans ta vie, tant qu'il y aura le mensonge, tant qu'il y aura le péché, tant que ceci, tant que... Dieu vous le montrera, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin de mettre la pression aux jambes pour ça. Alors prions quelques instants. Nous avons chanté tout à l'heure, Seigneur, merci pour ta parole. Oui, Seigneur, merci pour ta parole. Où serions-nous ce soir? Même si tu nous avais révélé ton œuvre au calvaire, où serions-nous sans ta parole? Où serions-nous si nous n'avions pas chaque chapitre béni qui nous enseigne la vérité? Ce que toi tu as dit, puisque nous avons chanté, oui, que l'homme ne vivrait pas du pain seulement. Merci pour le pain. Et tout ce qui va avec. Mais merci pour le pain béni de ta parole. Oui, tu nous donnes toutes choses afin que nous en jouissions. Mais nous te remercions pour la nourriture que tu accordes à notre âme. Oui, tu as réveillé Zacharie pour montrer que ton œuvre tu l'achèverais, qu'il en soit ainsi à Sainte-Agne. Que tu nous utilises pour poursuivre ton œuvre jusqu'à la fin. Mais Seigneur, fais-nous grâce que nous t'obéissions. Prépare la réunion de samedi. Tu sais, tous ceux qui viendront, qui ont soif du Saint-Esprit, qui ont soif de ce baptême, qui ont soif d'obéir, prépare et dispose les cœurs, Seigneur, afin que, oui, nous ayons la joie, avant que tu ne reviennes nous chercher, de vivre ce que tu dis dans les Corinthiens, que toute l'Église prophétise. Accorde-nous, Seigneur, de voir ces choses avant ton retour, pour la gloire et l'honneur de ton nom. Merci, Seigneur Jésus. Amen.